marqué au début du psaume 127 un cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. C'est-à-dire, ce psaume est un chant pour se préparer à l'adoration au temple et pour tenir ferme sur la route. J'aime bien cette image des pèlerins qui vont vers le temple et ils chantent ensemble pour tenir ferme sur la route. Pour nous, on peut le voir comme un chant à écouter dans la voiture avant le culte, pour aller au culte. Mais encore plus que ça, c'est un chant à chanter sur le chemin de la vie de tous les jours, pour tenir ferme sur la route quotidienne, pour que ce chemin nous amène vers l'Éternel. Quels que soient nos projets, que le chemin que nous prenons nous amène vers l'Éternel. Peut-être qu'en pensant à cette nouvelle année scolaire et à vos projets, peut-être que vous voyez déjà que ce sera un grand défi. Mais le défi, le vrai défi, sera de faire en sorte que ce chemin nous amène vers l'Éternel, quels que soient nos projets. C'était un peu difficile déjà ce week-end pour ma fille lorsqu'elle a vu la liste de classes hier soir devant l'école. Parce que déjà, bon, elle n'est pas avec toutes ses copines et en plus, c'est juste un rappel que l'année commence et ça représente beaucoup de travail devant elle. Et donc pour certains, nous avons déjà ce sentiment. Mais quel que soit le chemin devant nous, le chemin peut nous amener vers l'Éternel. Et ce psaume est un psaume pour nous rappeler que nous pouvons monter vers l'Éternel, nous pouvons adorer l'Éternel, quels que soient nos projets. Alors, lisons psaume 127, les deux premiers versets. Si l'Éternel ne bâtit la maison, en vain les bâtisseurs travaillent. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. Oui, il est vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Ce psaume parle beaucoup de la vie quotidienne. Construire une maison, travailler pour gagner sa vie. Plus tard dans le psaume, ça parle d'avoir des enfants. Ce sont les projets de la vie humaine. Et c'est déjà très intéressant, je trouve, qu'un chant pour monter vers l'Éternel, un chant pour se préparer à l'adoration, revienne à ces projets très terre à terre. Dieu ne s'en fiche pas de ces choses. Dieu ne dit pas que ces choses ne sont pas spirituelles. Les choses de notre vie de tous les jours. Au contraire, Dieu veut être impliqué dans chaque aspect de notre vie. Il veut être là pour nous aider et nous encourager et nous guider. Parce que justement, le psalmiste nous dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Le point de départ pour notre adoration le dimanche, c'est la semaine où nous invitons Dieu à bâtir notre vie. Nous n'arrivons pas le dimanche matin pour dire, voilà, maintenant je vais adorer Dieu. Nous pouvons adorer Dieu toute la semaine dans tout ce que nous faisons si nous invitons Dieu à travailler dans notre vie. Et si nous ne l'invitons pas, nous travaillons inutilement. Je propose donc deux parties pour le message ce matin. D'abord, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison? Et puis, qu'est-ce qui se passe quand nous l'invitons à le faire? Alors, quels sont vos projets qui préoccupent ce matin? Vous avez eu le temps d'y réfléchir. Ce serait très intéressant, je trouve, d'entendre tous les projets qui sont représentés ici par tous les personnages. Par toutes les personnes dans ces chaises. Et j'espère que vous prendrez l'occasion d'en parler dans vos groupes de maison cette semaine. Les groupes de maison sont faits pour ça. Partagez vos projets pour l'année, pour que vous puissiez prier les uns pour les autres. Nous avons plein de rêves, sans doute, plein d'espoir et de craintes. Peut-être boulot, finances, famille, vie de couple, amis, études, service à l'église. C'est à partir de ces choses que nous essayons tous, d'une manière ou autre, de construire une vie, n'est-ce pas? Pour un Israélite, dans l'Ancien Testament, ça voulait dire littéralement construire une maison. Heureusement, ce n'est pas le cas pour nous, parce que moi, je serais un peu perdu s'il fallait que je construise ma propre maison. Mais là, dans un monde sauvage, même dans les villes comme Jérusalem, bâtir une maison, dire... Ça voulait dire construire de la stabilité, se protéger contre les intempéries de la nuit, contre les animaux, contre les brigands. Ça voulait dire aussi établir sa famille, son foyer, littéralement produire des enfants qui pourraient continuer la lignée de la famille et du tribu et s'occuper des parents dans leur vieillesse. Comme les Israélites, nous aussi, nous voulons tous construire une vie. D'une façon ou autre, même si ce n'est pas construire une maison littéralement, nous voulons tous, d'une façon ou autre, de la stabilité. C'est normal. Mais finalement, ce psaume nous rappelle que si ce n'est pas Dieu qui nous donne notre stabilité, si ce n'est pas Dieu qui nous donne notre vie, notre travail est en vain. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi ? Est-ce parce que sans Dieu, nous allons forcément échouer, que notre maison va s'écrouler, que notre vie va disparaître, notre boulot va disparaître si nous ne prions pas? Pas forcément. Ça se voit, n'est-ce pas, que même un non-croyant peut bien réussir dans cette vie, dans un sens. Même un non-croyant peut avoir beaucoup d'argent. Même un non-croyant peut avoir une grande maison. Ce n'est pas que tous les projets vont échouer dans le sens terrestre. C'est que si nous travaillons en vain, si nous travaillons sans Dieu, nous travaillons en vain parce que sans lui, même nos réussites sont vaines. Même nos réussites sont vaines sans Dieu. Sans lui, même nos accomplissements n'arriveront jamais à combler le vide dans notre âme. Nos réussites ne vont pas nous sauver. Vos projets pour cette année, même si vous réussissez sans Dieu, ils ne servent à rien. Par contre, avec Dieu, notre travail est plein de sens. Nos projets ont plein de sens, même les choses les plus simples, les plus ennuyantes, si nous les offrons à Dieu comme sacrifice et adoration, ces choses deviennent sacrées. Le boulot chaque jour, le trajet, le transport, faire manger aux enfants, nettoyer la maison, préparer la voiture. Avec Dieu, il y a de la dignité dans ces choses, mais sans lui, même les choses les plus impressionnantes sont complètement vaines. Ça, c'est le premier problème. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit la maison est inutile. Le deuxième problème est que sans lui, tout va disparaître tôt ou tard. Sans Dieu, tu peux faire plein de choses, mais sans lui, elles sont toutes éphémères. Une belle famille, une grande maison, une grande église, un CV impressionnant. Sans Dieu, ils ne sont qu'un moment, un monument à ta propre gloire. Et tôt ou tard, ils vont tous disparaître. Vous qui avez eu le bac cette année, si vous offrez cette réussite à Dieu, elle a plein de sens. Mais si vous ne l'offrez pas à Dieu, ça ne sert à rien. C'est pour ça que Jésus nous dit en Matthieu 6, verset 19, Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent, et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mites et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Construire une vie solide ne veut pas dire construire sur les trésors de la terre, les réussites terrestres. Construire une vie solide veut dire construire sur les trésors du ciel. Faire tout ce que nous faisons à sa gloire, avec amour pour lui et pour notre prochain. Et cela ne se fait par la grâce de Dieu. Ce n'est pas ma sagesse qui va faire avancer ma vie. C'est la grâce de Dieu. Et c'est aussi la grâce de Dieu qui va parfois me détourner de mes projets, si ce n'est pas sa volonté pour moi. Vous savez, parfois, c'est ça la grâce aussi. Si dans une vie sans Dieu, même les réussites sont vaines, avec Dieu, même les échecs peuvent être des bénédictions. Si dans une vie sans Dieu, même les réussites sont vaines, avec Dieu, même les échecs peuvent être des bénédictions. Parce que la maison que vous construisez pour vous-même, elle n'était peut-être pas la maison que Dieu voulait pour vous. Et je pourrais vous raconter plein d'histoires de projets que j'ai eus, que Dieu a empêché de réussir. Et ce n'était que des années après que j'ai pu comprendre pourquoi. Et pour certains de ces projets, j'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi. Et peut-être que je ne comprendrai jamais. Mais je sais qu'avec Dieu, même mes échecs peuvent être une bénédiction. Et cette vérité, que c'est à Dieu et non pas à nous de faire avancer la vie, c'est autant le cas pour la maison de Dieu, que pour notre propre maison. Parce que maintenant, vous savez, après Jésus, la maison de Dieu, c'est l'Église. Le peuple, non pas le bâtiment. Et qui est-ce qui est chargé de construire cette famille, cette maison de Dieu? C'est Jésus lui-même. Vous connaissez tous, j'espère, le verset où Jésus dit, « C'est moi qui vais bâtir mon Église. Je vais bâtir mon Église et les portes de la mort ne prévaudront pas contre elle. » C'est Jésus qui a promis de construire cette Église. Donc, si vous pensez juste au projet de cette Église cette année, ne perdons pas de vue le fait que c'est Jésus qui va tout faire. Même s'il nous invite à travailler, même s'il nous invite à recruter des gens pour nous aider, finalement, ce n'est que Jésus qui peut bâtir son Église. Et si c'est nous qui le bâtissons, nous bâtissons en vain. Alors, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir une réussite dans le sens terrestre sans lui. Et je le précise, parce qu'il faut savoir que, par exemple, la fausse doctrine et les mensonges du diable sont parfois très attirants. Et parfois, les plus grandes églises sont les plus loin de la vérité. Et les plus loin de Dieu, malheureusement. Une église peut grandir sans Dieu. Tout comme une famille ou une nation peut devenir riche sans Dieu. Mais sans Dieu, tout ça, c'est la vanité. Nous pouvons grandir en tant qu'Église et avoir un nouveau local et plus d'activités. Nous pouvons avoir tout ça. Et ça peut être une très bonne chose. Mais si ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est inutile. Et si ce n'est pas lui qui le protège, un jour, tout va s'écrouler. Nous devons avoir l'habitude, maintenant déjà, de remettre tout ce que nous faisons entre les mains de Dieu, où ça ne va pas durer. Et dans 5 ans, ou 10 ans, ou 20 ans, ça va s'écrouler. Faisons attention à ne jamais juger un homme par la taille de sa maison, ou une église par la taille de leur bâtiment. C'est un mensonge. Quand on dit que c'est Dieu qui construit, ce qu'il construit n'est pas toujours impressionnant aux yeux des uns. On peut construire sans Dieu, mais c'est de la vanité. Et tôt ou tard, ça va disparaître. Ce qui compte, c'est ce que Dieu fait à travers la personne, à travers l'Église. Et ça, je trouve que c'est une vérité très libératrice. Parce que quand nous construisons une vie pour nous-mêmes, nous pouvons très vite commencer à imaginer que tout dépend de nous. Mais ça, c'est l'esclavage. Parce que dès que je pense que tout dépend de moi, je prends sur moi-même un fardeau qui est trop lourd pour moi. Essayer de bâtir ma vie moi-même, là, je ne suis qu'un esclave à moi-même. Et un esclave à mes limites et à mes faiblesses. Et en plus, là, ce n'est pas juste l'esclavage, c'est l'idolâtrie. Parce que si je pense que tout dépend de moi, qui est mon Dieu? C'est moi-même. J'ai pris la place de Dieu dans ma propre vie et j'ai mis Dieu à côté, de côté. Ça, c'est l'idolâtrie. Et comment adorer Dieu alors si j'ai fait de moi-même mon propre Dieu? Parfois, on se demande, mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à adorer? Bon, il peut y avoir beaucoup de raisons, mais des fois, c'est parce que j'ai fait de moi-même mon propre Dieu. Dès que je fais ça, je prends sur moi-même un fardeau et je ne monte plus vers l'Éternel. Au contraire, je descends et je me noie sous le poids de mes propres projets parce que ça me pèse tellement. Voilà donc, sur le diapo, une liste de ce qui pourrait nous arriver cette année. C'est un avertissement. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit notre maison, que ce soit dans l'église ou dans notre vie personnelle, ce sont les choses qui arrivent. Notre maison est inutile, notre maison est instable. Et tôt ou tard, nous trouvons que le poids est trop lourd. Ce n'est pas une très belle image. Mais c'est très facile à faire. Parce que face à nos projets et à nos désirs dans cette vie, c'est très facile de se dire, par exemple, franchement, si je ne le fais pas, personne ne va le faire, ou pas correctement en tout cas, et donc moi je dois le faire, je dois le prendre sur moi-même. Ou je peux me dire, ça me semble évident que si je ne réussis pas, tous ceux qui dépendent de moi vont souffrir, et ce sera de ma faute, et je ne peux pas supporter ça. Et c'est vrai que parfois nous vivons avec une pression énorme à cause de nos responsabilités. Des responsabilités qui sont réelles et importantes. Nous avons des responsabilités auprès de nos familles et ça peut être une pression énorme. Mais il ne faut jamais oublier que tout ne dépend pas de toi. Tout dépend de Dieu. Et imaginer que tout dépend de nous, ça, c'est de faire de nous-mêmes notre propre Dieu. Mais il y a de l'espoir dans ce psaume. Au verset 2, c'est la réponse au premier verset. C'est la réponse à ce problème. Verset 2, Dieu donne à ceux qui lui sont chers, même pendant qu'ils dorment. Si l'Éternel bâtit la maison, Dieu donne à ceux qui lui sont chers, même pendant qu'ils dorment. C'est pour ça que ce n'est pas la peine que je prenne tout sur mes propres épaules. Ce n'est pas juste parce que je n'en suis pas capable. C'est parce que lui, il est capable. Et il travaille pour moi, même lorsque je ne peux pas. Vous savez que Dieu travaille pour toi, pour votre bien, même pendant que vous dormez. Parce qu'il t'aime, Dieu travaille pour toi quand tu ne travailles pas. Je ne vais pas vous demander de lever la main si vous levez d'habitude avant 6 heures du matin, parce que je ne veux pas vous gêner, surtout ceux qui ne font pas. Mais je sais qu'il y en a ici dans l'Assemblée qui se lèvent très très tôt. Certains pour travailler, certains pour prier, certains pour se promener. Il y en a d'autres, il faut le dire, qui préfèrent travailler le soir au lieu du matin, et ça marche aussi. Mais dans les deux cas, la question que ce psaume nous pose, c'est est-ce qu'au milieu de tout ça, est-ce que vous vous souvenez que tout ne dépend pas de toi? L'importance et la valeur du travail est bien claire dans la Bible. Éphésiens 4, verset 28, nous rappelle, et je cite, que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement, de ses propres mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Dieu nous appelle à travailler, c'est vrai. Éphésiens 2, 10 nous dit que nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'idée n'est pas d'être paresseux. Nous ne sommes pas créés pour rien faire. Au contraire, nous reflétons la gloire de Dieu par notre travail. Mais dès que nous avons accepté cette responsabilité que Dieu nous a donnée, est-ce que nous vivons avec la crainte que si nous ne réussissons pas, tout va tomber à l'eau? Ou que vous allez perdre votre identité? Quelle est votre identité dans cette vie? Êtes-vous le mari qui pourvoit pour la famille? Êtes-vous la femme qui peut tout faire? La fille ou le fils peut-être qui tient la famille ensemble? L'ami qui soutiendra tes copains à tout prix? Parfois nous nous identifions par le travail que nous accomplissons dans cette vie. Mais ce sont des fardeaux qui sont trop lourds pour nous. Parce qu'il y a trop de choses dans ce monde que nous ne pouvons pas contrôler. Il y a trop de choses que nous ne pouvons pas contrôler. Les réactions des autres, leurs attitudes, leurs décisions. Nous ne pouvons pas contrôler l'économie. Nous ne pouvons pas contrôler la maladie. Nous ne pouvons pas contrôler l'Esprit de Dieu non plus. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est pour illustrer ce fait que le psaume parle des enfants plus tard dans le psaume, parce qu'on ne peut pas contrôler ça. Mais c'est Dieu qui le donne ou pas. Surtout à une époque où beaucoup d'enfants mouraient à la naissance en Israël, ils ne pouvaient pas contrôler. Un enfant, c'est un cadeau de Dieu pur et simple. Et c'est vrai autant pour un enfant spirituel que physique. Et là, il faut se rappeler que depuis la venue de Jésus, le peuple de Dieu n'est plus basé sur la descendance naturelle, mais sur la descendance spirituelle. Et donc, une famille avec un enfant ou avec aucun enfant n'est pas forcément moins bénie qu'une famille avec 7 ou 8 enfants. Parce que mes relations spirituelles comptent autant que mes relations familiales, naturelles ou spirituelles. L'idée de ce psaume est que ce ne sont pas nos efforts qui vont produire une vie bénie. C'est la grâce de Dieu pure et simple. Mais nous sommes humains et donc c'est difficile d'accepter l'idée que nous ne pouvons pas nous appuyer sur nos propres efforts, que nous ne contrôlons pas notre propre vie. C'est un peu dur d'entendre la phrase « Il est vain de vous lever tôt ». Si vous avez l'habitude de lever tôt. Parce que je veux que mes efforts comptent pour quelque chose. Je veux que mes efforts comptent. Mais ça, ce n'est pas la grâce, c'est l'esclavage. Nous nous remettons sous le joug de l'esclavage lorsque nous imaginons que c'est nous et non pas Dieu qui peut bâtir notre vie. Moi, j'ai dû rire récemment quand j'ai vu sur Facebook un jeune ami à moi qui disait que c'était dur maintenant après l'été. Parce que pendant l'été, il avait un boulot. Et donc, il s'est habitué à se lever tôt le matin, c'est-à-dire vers 8h30. Et maintenant, il n'arrivait plus à dormir après 8h30, même quand il avait l'occasion. Et donc, plus de grasse matinée pour lui, parce qu'il n'arrivait plus à dormir. Comme si 8h30 n'était pas déjà la grâce matinée. Donc je me suis dit, le pauvre. Mais je pense qu'il savait qu'il taquinait un peu les adultes, entre guillemets. Parce qu'en tant que jeune, il peut encore voir le monde un peu comme ça. Et nous, surtout ceux qui ont des enfants, nous ne pouvons plus. Et donc, je ne me moque pas vraiment de lui, ni de vous les jeunes, si vous faites la grâce matinée quand vous pouvez. Mais au contraire, ça soulève la question, est-ce que moi je pourrais faire la grâce matinée si j'avais l'occasion? Ou est-ce que je serais là, sur mon lit, incapable de dormir parce que je ne pensais qu'au travail que je ne faisais pas? À toutes les choses que je n'accomplissais pas? Ou toutes les choses qui se passaient sans moi? Pour moi, ça arrive, j'avoue, plutôt la nuit. Je me couche tôt avant d'être... Si je me couche tôt avant d'être vraiment épuisé, parfois je n'arrive pas à dormir. Et j'avoue que de plus en plus, il m'arrive de ne pas être capable de dormir parce que je me tracasse pour tout ce que je n'ai pas accompli la journée. Mais ça, c'est un mauvais signe. Parce que là, je ne dépends pas de Dieu. Là, je suis en train de réfléchir parce que je me préoccupe de ma vie. Et j'oublie que Dieu travaille pour moi même pendant que je dors. Pendant que je dors, je peux dormir parce que Dieu travaille pour moi même pendant que je dors. Mais un jeune comme mon ami là sur Facebook, il peut dormir la nuit et la matinée parce que pour lui, il sait que pendant qu'il dort, ses parents travaillent pour lui. Sa maman prépare le petit déjeuner et son papa coupe l'herbe pendant qu'il dort. Mais c'est pareil pour nous. Pendant que nous dormons, notre papa travaille pour nous. Cette idée que Dieu travaille pour moi lorsque je ne peux pas, c'est ce que la Bible appelle le principe du sabbat. C'est le principe du sabbat. Je ne sais pas pour vous ce que vous entendez par le mot sabbat, mais je suis de plus en plus convaincu que c'est une idée clé tout au long de la Bible. Ça commence à la création. Genèse 1, et ça continue jusqu'à la fin. La fin d'Apocalypse est présentée comme une sorte de sabbat éternel. Ça commence à la création. Et ça inclut le jour du sabbat dans la Bible, le samedi pour les juifs, le dimanche pour les chrétiens, ou un autre jour s'il faut. Mais ça implique aussi des semaines et des années entières qui s'appellent dans l'Ancien Testament, par exemple les années de jubilé. Mais dans tous les cas, l'idée dans la Bible est qu'un sabbat est un temps de repos et d'adoration. Et pendant presque toute ma vie, j'imaginais que cet aspect du repos, le repos du sabbat, voulait dire simplement qu'on n'allait pas au boulot afin d'être disponible pour aller à l'église. Et je n'ai jamais reconnu que dans le sens biblique, en fait, le repos est une adoration en lui-même. Quand vous vous reposez, vous adorez Dieu parce que vous êtes en train de dire à Dieu, je reconnais que c'est toi qui bâtis ma vie et donc moi je peux me reposer. C'est pour ça que dans les 10 commandements, le sabbat est décrit comme un repos à l'éternel. C'est la phrase exacte. C'est un repos à l'éternel. Un break à l'éternel. Dédié à l'éternel. Non pas parce qu'il fallait passer toute la journée au tabernacle. En fait, les Juifs ne passaient pas toute la journée au tabernacle. Mais parce que le repos lui-même est offert à Dieu comme une offrande. Vous voyez, selon la Bible, notre travail peut être un sacrifice à Dieu. Et selon la Bible, notre repos aussi doit être un sacrifice à Dieu. Les deux sont notre adoration à Dieu. Et nous les offrons à Dieu lorsque nous reconnaissons que c'est lui qui bâtit notre vie. Et donc le lundi matin, quand je reprends mes projets, les projets qui sont, j'espère, les projets de Dieu aussi, je me trouve dans l'esprit du sabbat. Je me souviens que même les projets que Dieu me donne et que je poursuis avec sa bénédiction, ce n'est pas à moi de les faire réussir. Ce n'est pas à moi de bâtir cette maison, c'est à Dieu. Et ce qu'il va bâtir, ça va tenir. Même quand tout le reste de ce monde s'écroule. Et donc, je vous encourage, cette année, réfléchissez à vos projets. Qui est-ce qui construit vraiment votre vie? Qui est-ce qui construit notre Église? Est-ce que votre travail et votre repos est une adoration à Dieu? L'année dernière, nous avons proposé comme thème pour l'année l'enracinement en Christ. Une année pour s'enraciner. Et il ne faut jamais arrêter de s'enraciner en Christ. Mais si ces racines sont là, qu'est-ce qui vient après? Si cette fondation est là, qu'est-ce qui vient ensuite? On grandit. On construit là-dessus. Cette année, nous allons bâtir sur cette fondation, dans nos vies personnelles et dans notre vie ensemble. Nous allons bâtir très littéralement dans notre nouveau local. Mais dans notre vie ensemble, nous allons aussi essayer de bâtir sur la fondation de Jésus-Christ. Nous allons travailler ensemble et nous allons nous reposer ensemble aussi. Et tous les deux seront une adoration à Dieu. Parce que dans tout ce que nous faisons, que ce soit le travail ou le repos, dans tout, c'est sa grâce qui nous soutient et qui nous protège. Prions pour remettre cette année entre ses mains. Seigneur, notre